Le bassin au noyer. Anne Ward, 1920. Elle était déjà dans la maison. Elle était là. Il n'y avait rien à craindre du dehors. La menace était à l'intérieur. Elle attendait. Elle attendait depuis bien longtemps, depuis le jour où il était rentré. Mais en fin de compte, pour Anne, ce ne fut pas la peur, le déclencheur. Ce fut la culpabilité. La conscience, froide et dure telle un galet sorti du ruisseau, de ce qu'elle souhaitait, du rêve qu'elle s'autorisait la nuit venue, quand le vrai cauchemar de sa vie la submergeait. Le cauchemar, c'était lui, allongé à ses côtés dans le lit, ou assis près du feu, ses bottes aux pieds, un verre à la main. Le cauchemar, c'était chaque fois qu'elle surprenait son regard posé sur elle, ce regard empli de dégoût, comme si elle était physiquement répugnante. Il n'y avait pas qu'elle, elle le savait. Il y avait aussi toutes les autres femmes, tous les enfants, tous les vieillards et tous les hommes qui n'avaient pas participé au combat. Pourtant, elle en souffrait quand même de voir, de sentir, plus fort et plus clairement qu'elle n'avait jamais rien senti, à quel point il la haïssait. Et après tout, elle le méritait. Le cauchemar était réel, c'était son quotidien, cette maison, mais c'était le rêve qui l'obsédait, celui qu'elle s'autorisait à tant désirer. Dans le rêve, elle était seule dans la maison à l'été 1915. Il venait de partir au front. Dans le rêve, c'était le soir. Le soleil était en train de disparaître derrière la colline, de l'autre côté de la rivière. Les ombres grandissaient peu à peu dans les recoins de la maison et on frappait à la porte. C'était un homme en uniforme qui lui tendait un télégramme et elle comprenait immédiatement que son mari ne reviendrait jamais. Dans le rêve, cela lui était égal de savoir comment c'était arrivé. Cela lui était égal qu'il soit mort en héros pour sauver un camarade ou en traître fuyant devant l'ennemi. Cela lui était égal du moment qu'il était mort. Cela aurait été plus facile pour elle. C'était la vérité, non? Alors n'avait-il pas raison de la haïr? S'il était mort là-bas, elle l'aurait pleuré. Les gens auraient compati pour elle, sa maman, ses amis à elle, ses frères à lui, s'il lui en était resté. Il l'aurait aidée, soutenue, et elle aurait su faire face. Elle aurait été en deuil longtemps même, mais le deuil aurait pris fin tôt ou tard. À 19, 20, 21 ans, elle aurait eu la vie devant elle. Il avait raison de la haïr. 3 ans, il était resté là-bas, près de 3 ans, à étouffer dans des montagnes d'excréments, à patauger dans les flaques du sang d'homme avec qui, la veille encore, il avait partagé une cigarette. Et voilà qu'elle souhaitait qu'il ne soit jamais revenu et qu'elle maudissait chaque jour où ce télégramme n'était pas arrivé. Elle l'aimait depuis ses 15 ans. Elle ne se souvenait pas de ce qu'était sa vie avant qu'il n'en fasse partie. Il avait 18 ans quand la guerre avait commencé et 19 quand il avait été mobilisé. Et il était revenu plus âgé chaque fois, pas de quelques mois, mais de plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles. La première fois pourtant, il était encore lui-même. Il pleurait la nuit, tremblant comme aux prises avec une terrible fièvre. Il lui répétait qu'il ne pouvait pas repartir, qu'il avait trop peur. La veille de la fin de sa permission, elle l'avait trouvé près de la rivière et l'avait forcé à rentrer à la maison avec elle. Elle n'aurait jamais dû faire ça. Elle aurait dû le laisser partir ce jour-là. Elle avait été égoïste de l'en empêcher. Voilà ce qui était arrivé, par sa faute. La deuxième fois, il ne pleurait plus. Il était resté silencieux, renfermé, la regardant à peine, à part pour lui glisser quelques coups d'œil à la dérobée, les yeux mi-clos. Mais jamais au lit. Là, il la forçait à se retourner, et il ne s'arrêtait pas, même quand elle le suppliait, même quand elle saignait. Il la détestait déjà à cette période. Elle ne l'avait pas tout de suite compris, mais quand elle lui avait dit qu'elle avait de la peine pour les filles qu'on maltraitait dans les prisons, les objecteurs de conscience, il l'avait giflé. Il lui avait craché dessus et l'avait traité de putain et de sale traîtresse. La troisième fois qu'il était rentré, il n'était plus là. Elle savait désormais qu'il ne reviendrait jamais. Il ne restait plus rien de l'homme qu'il avait été. Mais elle ne pouvait pas le quitter. Elle ne pouvait pas s'enfuir et tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, parce qu'il était tout pour elle et, désormais, il avait disparu. disparu. Et pourtant, il était là, assis près du feu avec ses bottes aux pieds. Et il buvait et buvait encore. Et il la regardait comme si c'était elle, l'ennemi. Et elle priait pour qu'il meure. Quelle vie était-ce que cela ? Anne aurait préféré une autre solution. Elle aurait voulu connaître les secrets des autres femmes. Mais Libby Seaton était morte depuis bien longtemps et les avait emportées avec elle. Anne connaissait quelques petites choses, bien sûr, comme toutes les femmes du village. Elle savait quels champignons cueillir et lesquels laisser de côté. Elle savait qu'il fallait se méfier de la belladone, cette fleur si belle et pourtant si dangereuse. Elle savait dans quel coin du bois la trouver. Mais elle savait également ce que cela provoquerait, et elle ne voulait pas d'une telle fin pour lui. Il avait tout le temps peur. Elle le voyait bien. Elle le lisait sur son visage chaque fois qu'elle lui glissait un regard. Ses yeux en permanence braqués sur la porte, sa manière de scruter le crépuscule pour voir au-delà des arbres. Il avait peur et il attendait l'arrivée de quelque chose. Mais tout ce temps, il ne regardait pas au bon endroit. L'ennemi n'était pas là, dehors. Il était déjà entré dans sa maison. Il était assis devant son âtre. Elle ne voulait pas qu'il ait peur. Elle ne voulait pas qu'il voie l'ombre s'abattre sur lui. Alors elle attendit qu'il s'endorme, assis dans son fauteuil, ses bottes aux pieds, sa bouteille vide contre lui. Elle agit rapidement et sans bruit. Elle posa la pointe de la lame sur sa nuque et l'enfonça d'un coup. Il se réveilla à peine qu'il était déjà parti. Pour toujours. C'était mieux ainsi. Après, évidemment, le nettoyage s'était révélé ardu, alors elle était descendue à la rivière pour se laver les mains.